100% d'Europe, Frédéric Lebel.
Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo.
Bonjour à tous, on pourra dire que c'est l'effet Erasmus, c'est certainement la conséquence du chômage. 50% des jeunes Européens sans emploi sont prêts à s'établir dans un autre pays européen pour décrocher un job. Plus que jamais, la mobilité est au cœur de l'économie européenne, avec des exemples surprenants. Curieux retournement de l'histoire, on voit ainsi aujourd'hui des Italiens qui viennent s'installer en Albanie 25 ans après la vague migratoire des Albanais qui fuyaient la pauvreté pour aller vivre justement sur la péninsule. Ce n'est qu'une minorité bien sûr, mais c'est assez pour que l'on parle avec ironie aujourd'hui de l'Albanie comme la 21e région italienne. Reportage à Tirana de Louis Seyé.
Alors moi, ça fait bientôt 2 ans que je suis arrivée à Tirana. C'était d'abord pour des raisons personnelles. Mais quand j'ai compris qu'il y avait des opportunités professionnelles et que les conditions qu'on me proposait étaient meilleures qu'en Italie, j'ai décidé de rester.
Dans un open space flambant neuf en plein centre de Tirana, Ida Nasti passe d'un ordinateur à l'autre. Elle conseille en italien ses collègues albanais au sein d'une entreprise locale de web marketing.
C'est un travail que j'ai aussi cherché à faire en Italie, mais je n'ai pas obtenu de conditions de travail satisfaisantes, ou en tout cas celles que j'aurais aimé avoir afin de prendre mon indépendance. Dans le sud de l'Italie, c'est très difficile d'avoir la vie que j'ai maintenant.
En quittant le sud de l'Italie, Ida a aussi laissé derrière elle les stages, les CDD et autres contrats précaires et mal payés. C'est bien à Tirana qu'elle a trouvé un travail qui lui plaît et qui lui permet de vivre aujourd'hui de façon indépendante. Pourtant, autour d'elle, les gens ont encore du mal à comprendre son choix.
Oui, c'est une question que les Albanais me posent souvent. Mais comment, toi, tu viens en Albanie ? Et eux, ils veulent venir chez nous. Je ne sais pas si les Albanais perçoivent encore l'Italie comme la terre promise. Je pense que le scénario a un peu changé. Là, les Italiens qui viennent ici, je pense qu'ils viennent vraiment pour saisir des opportunités.
Ces opportunités, Roberto Mazzucca les a très vite comprises. Arrivé en tant qu'étudiant à Tirana, ce jeune homme ambitieux a rapidement séché les bancs de l'université.
J'ai compris qu'il y avait plein de choses à faire et c'est comme ça qu'est né Affitti Italiani, location italienne. C'est une agence immobilière qui s'occupe principalement des Italiens qui veulent venir en Albanie, pour différentes raisons, pour le travail, les études ou simplement pour vivre. Ils sont de plus en plus nombreux. Jusqu'à aujourd'hui, on s'est occupé de plus de 500 voire 600 personnes.
Roberto se sent chez lui à Tirana. L'Albanie, ce n'est qu'à 1 heure de vol de sa Calabre natale. On y mange bien, on y parle italien et surtout, le coût de la vie y est bien moins élevé.
Par exemple, chez le coiffeur. En Albanie, pour faire la barbe et les cheveux, le coiffeur te prend 3,50 €. En Italie, en dessous de 50 euros, tu ne trouves aucun coiffeur. Et il y a plein de choses qui sont vraiment avantageuses ici. Il y a une bonne qualité de vie, et quand je dis bonne, je ne dis pas parfaite, mais les choses s'améliorent constamment.
Certains médias albanais et italiens se sont enthousiasmés des destins comme celui de Roberto. Pour les jeunes Italiens, l'Albanie serait un véritable Eldorado, une nouvelle Amérique.
Non, ce n'est pas l'Amérique, c'est l'Albanie, avec ses avantages et ses inconvénients. Comme l'Amérique a été elle aussi. Il y a des Italiens qui viennent ici et font fortune, pas tellement sur le plan économique, mais plutôt socialement. Et il y en a d'autres qui arrivent ici et disent « moi je sais faire, moi je sais faire ». Qui savent faire, mais en arrivant ici, ils rencontrent beaucoup de difficultés. Donc assurément, ce n'est pas l'Eldorado, c'est simplement c'est l'Albanie.
Même s'il n'a que 30 ans, Roberto s'occupe aussi d'une association pour les retraités italiens qui veulent s'installer en Albanie. Il s'est associé à son président, Carmine Lampietro. Carmine a travaillé toute sa vie dans le nord de l'Italie et aujourd'hui, il profite du calme et des plages albanaises.
La microcriminalité, selon moi, elle n'existe pas en Albanie. Et ça, c'est très très important pour un retraité. Je ne dis pas qu'on peut laisser les portes de la maison ouvertes, mais presque. On peut vivre de manière tranquille et sereine. C'est ce qu'il faut après une vie de travail. On a besoin d'une grande tranquillité.
Pour sa retraite, Carmine a étudié de nombreuses possibilités. Les Canaries, le Portugal. Son choix s'est rapidement porté sur l'Albanie.
Il y a des avantages fiscaux ici, parce que les retraites ne sont pas imposées. La retraite moyenne en Italie, elle est à 1000 euros. Mais si tu vis en Albanie, tu récupères 25-30%. Ça veut dire qu'à la maison, tu te retrouves avec environ 1200 ou 1300 euros. Moi, je suis arrivé à la conclusion que l'Albanie est le pays qui offre le plus d'avantages pour un retraité.
Carmine et Roberto viennent tout juste de fonder leur association, mais ils reçoivent déjà une trentaine de demandes tous les mois. La mauvaise image que les Italiens ont de l'Albanie, pour Carmine, c'est du passé.
En Italie, avant, l'Albanie n'existait que par les Albanais qui sont venus en Italie il y a 25, presque 30 ans. Mais l'Albanie d'aujourd'hui n'a rien à voir avec l'Albanie d'il y a 30 ans.
Dans la classe politique albanaise, on aime le répéter, le pays a totalement changé. Et désormais, ce ne sont pas les Albanais qui vont en Italie, mais le contraire. Le Premier ministre parle même de 20 000 entrepreneurs italiens installés dans le pays. Mais pour l'analyste albano-italien Fatos Lubonia, ces chiffres sont quelque peu fantasmés.
Va à l'ambassade d'Italie demander combien il y a d'Italiens ici. Ils ne sont même pas 3000 résidents. Ces chiffres sont un mythe construit par nous et par notre gouvernement pour attirer et faire de la propagande, parce que l'Occident est malheureusement très important dans ce pays pour légitimer nos hommes politiques.
Si certains Italiens tentent aujourd'hui l'aventure en Albanie, on est encore loin de pouvoir parler d'immigration inversée. Alors que les Albanais sont 500 000 à vivre en Italie, les Italiens, eux, ne sont que quelques milliers à avoir choisi l'Albanie. Un phénomène encore minoritaire, mais peut-être appelé à prendre de l'ampleur.
Et en République tchèque, où l'on est en situation de plein emploi, les entrepreneurs peinent à trouver de la main-d'œuvre. Le gouvernement fait donc tout pour faciliter la venue de travailleurs ukrainiens qui sont déjà nombreux à occuper des emplois peu qualifiés. Les explications depuis Prague d'Alexis Rosenzweig.
Ils sont de plus en plus nombreux, plus de 120 000 selon les chiffres officiels, dans plusieurs secteurs de l'économie tchèque, le bâtiment, les services ou dans le secteur de la santé, lui aussi fortement touché par le manque de main-d'œuvre en Tchéquie. Les Ukrainiens ont trouvé ici la paix et surtout des opportunités professionnelles qui se sont multipliées. À Prague, la capitale, ils sont déjà plus de 35 000 à avoir un permis de séjour permanent. La bonne santé de l'économie tchèque a cette conséquence qui est déjà une tendance lourde, la pénurie de candidats pour les entreprises. Pénurie qui a incité le gouvernement à prendre des mesures afin de leur permettre de recruter des ressortissants étrangers plus facilement. Le ministère tchèque de l'Intérieur a fait valider dans ce sens l'augmentation du nombre de visas de travail accordés aux citoyens ukrainiens. De 20 000, leur chiffre va passer à plus de 40 000 par an. Pour faciliter les procédures, dans les consulats tchèques de villes ukrainiennes comme Lviv ou Kharkiv, un système de carte d'employés a été mis en place. Système qui doit également permettre de limiter les marges de manœuvre d'agences privées, parfois peu respectueuses du droit des travailleurs auxquels elles promettent de garantir un salaire. Pour certains analystes à Prague, les nouvelles mesures gouvernementales ne suffiront pas à combler le manque de main-d'œuvre. Il y avait 350 000 postes à pourvoir le mois dernier en Tchéquie, que ce soit pour de la simple manutention ou pour des emplois plus qualifiés, dans l'informatique notamment. Du coup, les autorités tchèques ont décidé d'élargir ces programmes de recrutement à des pays situés encore plus à l'est que l'Ukraine, comme le Kazakhstan, la Mongolie, le Népal et les Philippines.
En Autriche, ce sont les femmes bulgares et roumaines qui sont de plus en plus sollicitées pour venir travailler comme aidantes auprès des personnes âgées et dépendantes. Leur embauche, souvent à domicile, 24 heures sur 24, permet de compenser les failles des politiques publiques, mais gare au dérapage. C'est le reportage de Céline Béal.
En Autriche, 84% des personnes dépendantes vivent à domicile et elles sont de plus en plus nombreuses à faire appel à des professionnels. Le marché de l'assistance à domicile 24 heures sur 24 est en plein boom. Christian Elsner s'est lancé il y a 7 ans dans ce secteur et il est maintenant à la tête de la deuxième franchise du pays. Ce Tyrolien est de passage à Vienne et nous rencontre dans un café. Assistante non déclarée, non respect du code du travail, autant de dérives dénoncées dans la presse, mais qui, selon lui, ne concerne que ses concurrents.
La demande ne fait qu'augmenter. Alors, si on n'est pas prêt à y mettre le prix, c'est sûr que la qualité en pâtit.
Ce qui est difficile, c'est que les clients veulent tous la perle rare qui cuisine de bons petits plats, elle permet de conduire et maîtrise parfaitement l'allemand. Ce dernier point est impossible à remplir. Elsner recrute à l'étranger, comme toute la concurrence.
Nous recrutons surtout en Bulgarie et en Roumanie. Là-bas, une infirmière gagne dans les 500 euros, une vendeuse dans les 300. Pour la plupart, ce sont des femmes qui ont la cinquantaine. Elles étaient femmes au foyer et elles ont divorcé ou elles étaient au chômage sans indemnité ou encore avec un emploi rémunéré 300 euros. Et les agences viennent et leur proposent de venir en Autriche pour gagner 1100 euros par mois.
Christian Elsner assure que son agence paye plus 1400 à 1700 euros pour recruter des candidates de qualité. Du côté des clients, les tarifs mensuels les plus bas pour ces services d'assistance 24 heures sur 24 commencent à 2500 euros. Les patients peuvent espérer recevoir 1000 euros de la part de l'État au titre de l'allocation dépendance. Reste 1500 euros à débourser chaque mois, possiblement pendant des années. Une somme conséquente que seule une minorité peut débourser. La charge revient donc bien souvent aux familles. Birgit Meinert-Schiebel donne ses rendez-vous en terrasse. La présidente de l'association qui regroupe et défend les aidants familiaux n'a pas de bureau. Sa communauté d'intérêt des aidants familiaux a été créée il y a 10 ans et elle est plus que jamais d'actualité.
On sait maintenant qu'il y a en Autriche près d'1 million de personnes qui s'occupent et soignent un proche. À l'époque, on avait déjà constaté un tel phénomène et c'était important pour nous de donner une voix à ces personnes. Car le plus gros problème des aidants familiaux, c'est qu'ils sont dans l'ombre, qu'ils ne se montrent pas dans l'espace public et qu'ils ne défendent pas leurs intérêts.
L'association, qui est en partie soutenue par la Croix-Rouge, fait un travail de lobbying. 1 million de personnes, c'est presque un Autrichien sur 8 qui s'occupe d'un proche dépendant. Certains le font à raison de quelques heures par semaine, d'autres nuit et jour. L'association a organisé une journée de sensibilisation auprès du grand public, car la présidente le déplore, la question de la dépendance n'est toujours pas reconnue comme un enjeu de société.
C'est parce qu'en Autriche comme en Allemagne, et à la différence des pays du Nord, on a l'idée ici que c'est une affaire de famille, la famille doit s'en charger.
Beaucoup d'enfants prennent tout naturellement en charge le soin de leurs parents, sans être conscients des conséquences pour leur propre bien-être, leurs finances, leur carrière ou leur santé. Anton Prager, 75 ans, est l'un de ses aidants familiaux. Syndicaliste à la retraite, lui, c'est de sa femme Susanne dont il s'occupe depuis qu'elle est devenue paraplégique il y a 11 ans à la suite d'un accident.
Au début, c'était plutôt difficile et c'était beaucoup de travail.
Il y a eu des moments particulièrement difficiles pour lui, quand Susanne a dû être opérée par exemple.
On a d'abord essayé de faire appel à une aide professionnelle sous la forme d'un service de soins mobile. Mais par exemple, dans le cas d'une cicatrice qui s'ouvre, si ça se passe à 6 heures du matin, l'infirmière mobile, elle passe à 11 heures. Donc ça ne marchait pas. Alors j'ai dû me faire expliquer à l'hôpital comment le faire moi-même. Dieu soit loué, nous n'avons plus ce genre de problème depuis longtemps. C'était une situation difficile à supporter.
Le couple Prager explique le travail que représente la dépendance. Quand Susanne s'est retrouvée en fauteuil roulant, il a fallu par exemple déménager, trouver une cuisine adaptée, etc. Aujourd'hui, 11 ans plus tard, Susanne Prager-Schugart a repris son travail de conseillère fiscale, à mi-temps, et elle emploie une assistante de vie entre 80 et 100 heures par mois. Les démarches ne sont pas simplifiées.
Il faut récupérer auprès des assistantes beaucoup de documents chaque mois, établir des emplois du temps, envoyer les documents au conseiller fiscal et déclarer tout ça chaque mois au Fonds social viennois. C'est presque comme si j'étais entrepreneur indépendante.
Auprès du Parti social-démocrate dont ils sont membres, les Prager ont voulu faire bouger les choses. Ils insistent, ce ne sont pas seulement des problèmes de vieux, cela peut arriver à tout le monde. Mais pour Anton Prager, les réponses ont jusqu'ici été décevantes.
Les politiques essayent encore et toujours de faire quelque chose. Par exemple, les allocations dépendance viennent d'être augmentées. Mais il n'y a pas de solution globale. On se repose sur le fait que les proches vont faire le gros du travail, quelle que soit la situation.
On vote en Autriche fin septembre pour les législatives. Déjà, les grands partis ont tenté quelques propositions pour réformer le secteur, avec une question fondamentale, celle du financement de la dépendance.
Lesson of English.
Et pour accompagner cette mobilité, la question de l'apprentissage des langues est bien sûr centrale. Mais il faut bien le dire, le panorama européen n'est pas très encourageant ni très diversifié. Pour en parler, nous retrouvons Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Frédéric.
Alors l'enseignement des langues étrangères favorise-t-il la mobilité et l'intégration en Europe ?
Malheureusement, la réponse est négative. D'une part, l'enseignement des langues en Europe ne se distingue pas particulièrement de l'enseignement pratiqué sur les autres continents. Comme partout, la position de l'anglais est totalement dominante, puisque hors Royaume-Uni et Irlande, plus de 97% des élèves de l'Union étudient la langue de Shakespeare au collège. Cette écrasante prédominance ne reflète aucunement la réalité linguistique européenne. Si l'on considère la langue maternelle des populations en y ajoutant une estimation du nombre de citoyens étrangers pratiquant couramment cette langue, on découvre que l'anglais, pourtant partout enseigné, n'est pas si dominant que cela, avec environ 150 millions de locuteurs en Europe. L'allemand est pratiqué par 125 millions de personnes, le français par 90 millions, l'italien par 67 et l'espagnol par 57. Une diversité linguistique que l'on ne retrouve pas à l'école où l'anglais domine tout.
Alors rien ne change donc à l'école pour les langues ?
Ce qui a changé, c'est le fait que les élèves apprennent de plus en plus une langue étrangère. En 2015, 84% des élèves du primaire apprenaient une langue contre 69% en 2005 et 60% étudiaient deux langues dans le secondaire. En France et dans 6 autres pays, l'Italie, l'Espagne, le Luxembourg, l'Autriche, la Pologne et la Roumanie, l'apprentissage d'une langue commence dès l'âge de 6 ans. Mais il ne débute qu'à 8 ans en Allemagne et au Portugal, et même à 10 ans aux Pays-Bas. Il faut noter que sur toute la durée des études, les Français arrivent depuis 2016 avec un total de plus de 1000 heures obligatoires de langue en deuxième position européenne, juste derrière l'Allemagne.
Beaucoup d'heures de langue donc en France, mais avec quel résultat ?
Fort médiocre, puisque selon le classement EFEPI, qui est l'indice de compétence en anglais publié chaque année par la société internationale Education First, les Français occupent la dernière place européenne en ce qui concerne la maîtrise de l'anglais. Selon les années, ils se retrouvent toutefois en concurrence avec les Italiens, eux aussi fâchés avec la langue de Shakespeare.
Et donc globalement, quelle est la place du français dans les écoles européennes ?
Au niveau du premier cycle de l'enseignement secondaire, le collège en France, le français arrive en deuxième position avec 34% des élèves qui l'étudient, nettement devant l'allemand 23% et l'espagnol 13%. Il est donc la deuxième langue par excellence et tout particulièrement en Italie et au Portugal, où il est la seconde langue de respectivement 68 et 65% des élèves, et surtout en Roumanie, 84%. Les Espagnols, les Allemands, les Autrichiens et les Néerlandais privilégient également, mais dans une moindre mesure, le français en seconde langue. L'Europe centrale et le Danemark choisissent en revanche l'allemand après l'anglais. Quant aux Français, on le sait, leur deuxième langue est très nettement à 38%, l'espagnol. Mais l'engouement des Suédois pour la langue de Cervantes est encore plus fort.
Et quid du français en première langue, Daniel ?
Le français est encore logiquement la première langue enseignée au Royaume-Uni et en Irlande, ainsi qu'en Belgique néerlandophone, où elle est obligatoire du fait du bilinguisme du pays. Mais concernant le Royaume-Uni, ce statut de première langue est très peu significatif, compte tenu du déclin marqué de l'apprentissage des langues étrangères outre-Manche, où seulement 47% des élèves de 16 ans étudient encore une langue étrangère. Selon les chiffres du British Council, les efforts récents du gouvernement britannique pour redresser la barre sont d'une efficacité relative, puisque les directives du ministère ne s'imposent pas aux free schools qui se sont beaucoup développées. Ainsi, en 2017, seulement 130 000 Britanniques étudiaient le français à 16 ans, contre 90 000 l'espagnol et 45 000 l'allemand.
Et peut-on dire que ce panorama de l'enseignement des langues est le même au niveau du deuxième cycle du lycée ?
Non, c'est un peu différent au niveau du lycée. La prédominance de l'anglais est toujours aussi écrasante, 94%, mais l'enseignement du français est nettement moins fréquent que dans le premier cycle, 23% contre 33%, tandis que celui de l'allemand recule moins, 19% contre 23%, et que l'espagnol progresse de 13% à 19%. Selon les experts, cela dénote le fait que la langue de Molière est moins utilitaire que celle de Goethe, puisque l'on choisit moins souvent d'en approfondir l'étude. Cela dit, l'apprentissage à un niveau supérieur du français comme de l'allemand a reculé de 3 ou 4 points depuis 2009, principalement au profit de l'espagnol, mais aussi de langues extra-européennes comme le chinois ou l'arabe.
Merci Daniel Vigneron, à bientôt.
À bientôt Frédéric.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique podcast Accent d'Europe. À demain.